Bienvenue à cette table ronde sur la machine qui répare l'homme ou la femme d'ailleurs, même si c'est une table ronde très masculine, mais il sera question aussi de la femme. Effectivement, on assiste à une explosion des techniques qui permettent de réparer l'homme un peu considéré comme une machine en pièces détachées, une machine dont on pourrait changer les pièces facilement, ou plus ou moins facilement. C'est aussi un thème qui peut être développé jusqu'à l'augmentation. On a tous en tête l'homme qui valait 3 milliards, qui était un homme qui a effectivement perdu des possibilités et qui a eu des morceaux remplacés et qui a trouvé ses possibilités décuplées. Pour discuter de ça, d'à la fois les machines qui réparent et les machines qui augmentent, nous avons un panel de 5 personnes. Nous avons Olivier Fidalgo, tout à droite. Olivier, alors c'est la gauche pour vous, pardon. Olivier est médiateur scientifique en langue des signes au Palais de la Découverte et à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Olivier est sourd de naissance et il est membre de la cellule accessibilité de ces deux musées, cellule qui a pour but de faciliter l'accès public, le public à mobilité réduite, le public malentendant et le public non-voyant à toutes ces offres de ces musées. À côté de lui, nous avons Olivier Gechter, qui est l'auteur de plus de 30 nouvelles et de 2 romans, dont Le Baron Noir, dont on verra qu'il nous intéresse pour le sujet que nous allons traiter. À côté de lui, nous avons Clément Pellissier. Clément prépare une thèse en lettres modernes au Centre de recherche sur l'imaginaire de l'Université Stendhal Grenoble 3. Thèse sur les imaginaires scientifiques dans les sociétés du comic book américain. C'est donc un fin connaisseur des super-héros et de la culture populaire ou geek. Et à côté de lui, nous avons Antoine Mautier, spécialiste de la littérature de SF, directeur de collection des éditions Goather, où il a dirigé en 2013 l'anthologie Réalité 5.0. Et à côté d'Antoine et à côté de moi, nous avons Claire Vardac, chercheure INSERM dans le domaine des neurosciences cognitives, qui travaille depuis 2015 dans l'équipe autisme au sein de l'unité imagerie et cerveau à l'université François Rabelais de Tours. Alors, par quoi on répare l'homme ? Je voudrais qu'on fasse déjà un petit panel des différentes techniques et en particulier des organes qui sont à l'intérieur du corps. On fait beaucoup de progrès, Claire Vardac, dans ce domaine-là. On a du cœur artificiel, on a des reins ou des fonctions de reins. Comment ça se passe ?
Merci. Oui, effectivement, maintenant, on cherche à remplacer le plus possible d'organes différents quand ils sont atteints. Alors, moi, je voudrais, d'un point de vue biologique, puisque moi, je suis biologiste, j'aimerais distinguer, en fait, différents types de prothèses. On va avoir effectivement des prothèses, on va dire, où c'est juste le matériau qu'il faut remplacer. Et donc, effectivement, là, c'est l'avènement de l'imprimante 3D est très importante pour pouvoir, par exemple, remplacer un os, imprimer une artère ou des choses comme ça. On va dire que ça va être des prothèses qui sont vraiment matérielles. Après, on peut avoir des prothèses qui vont donc remplacer une fonction perdue et sur lesquelles on va utiliser les voies nerveuses. Je parle principalement là, effectivement, de restaurer, par exemple, de la motricité ou la perception sensorielle. Des voies nerveuses qui... donc, utiliser les voies qui sont encore intactes et utiliser donc... les voies intactes pour restaurer la fonction avec une interface vers une prothèse. Et donc là, je pense par exemple à l'œil bionique qui va utiliser quand même toute la voie après l'œil qui reste intacte pour permettre d'analyser. Ou on peut penser par exemple maintenant aux nouvelles, aux tests de moelle épinière où effectivement toute la commande motrice peut encore descendre jusqu'à la partie sectionnée de la moelle épinière. Et après, on va utiliser cette information. Et enfin, il y a aussi maintenant des prothèses où on va décoder, utiliser vraiment l'information complexe au niveau du cerveau grâce à l'informatique pour essayer de décoder le code et l'utiliser pour commander quelque chose de particulier. Voilà le tour pour moi des prothèses.
Alors, il y a... Vous m'entendez ? Oui. Il y a aussi des discussions. Est-ce que c'est bon de tout remplacer dans l'homme, de remplacer tout ce qui ne fonctionne pas et qui définirait une espèce de norme? Olivier Fidalgo, j'aimerais bien avoir votre opinion sur les prothèses auditives. Est-ce que on doit utiliser systématiquement des prothèses auditives, en particulier chez les enfants qui naissent sourds?
Oui, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait parfait. Il y a du positif et du négatif. Pour les enfants, l'implant, en fait, vous imaginez, vous voyez un enfant, vous pensez « Oh, le pauvre enfant sourd !» Pour vous, c'est horrible. Et vous pensez à la solution de l'implant. Mais lui, l'enfant lui-même, son identité, elle disparaît. C'est ça qui est problématique. Donc en fait, on ne peut pas imaginer se représenter à la place des personnes qui vivent ça. Imaginez un enfant qui a des parents sourds. Les parents sourds veulent que son enfant signe. Ils peuvent lui mettre des implants pour qu'il signe plus facilement. Comment mettre un implant à un enfant sourd ? Bon. En fait, l'implant, effectivement, si c'est un adulte... ça peut être acceptable. Mais pour un enfant qui naît comme ça, tout de suite lui mettre l'audition par un implant, non, ça ne peut pas marcher. En fait, une audition qui serait à l'équivalent de 70% de ce qu'on entend. Alors, pour quelqu'un qui aurait perdu l'audition avec la vieillesse, oui, effectivement, des appareils auditifs suffisent. Pourquoi un implant ? Pourquoi on voudrait une même norme ? Pourquoi on voudrait que tout le monde entende pareil avec ces implants-là ? Où est l'identité de chacun ? Le cerveau fonctionne finalement.
L'œil bionique, Claire Vardac, s'adresse à une population très particulière de personnes qui ont perdu la vision par une maladie. Et là, dans ce cas, la prothèse est vraiment indispensable.
Effectivement. L'œil bionique, ça, c'est pour des patients qui ont... Déjà, conserver le voie visuelle après l'œil intact, c'est-à-dire le nerf optique jusqu'au cerveau, et qui ont utilisé la vision dans l'enfance, en fait. On ne peut pas faire marcher le système s'il n'a pas été programmé à un moment. En fait, à l'heure actuelle, l'œil bionique s'adresse à deux populations de patients. Des patients atteints de rétinite, donc une maladie génétique où il y a une dégénération progressive des récepteurs de la rétine et également la dégénérescence maculaire, en fait la DLMA liée à l'âge, où effectivement là aussi on a une perte progressive des récepteurs de l'œil. Donc il faut que tout le reste du système fonctionne derrière, puisque le principe, ça va être de stimuler le nerf optique pour faire voir quelque chose. Donc, comment on le stimule ? En fait, il y a à l'heure actuelle deux types de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va poser un implant qui va être sur ou sous la rétine. Bon, c'est légèrement différent au niveau du fonctionnement, mais je ne pense pas que ce soit la peine de rentrer dans les détails ici. Le principal, c'est de comprendre que l'environnement extérieur va être analysé par une caméra, généralement positionnée sur des lunettes. Il va y avoir un traitement informatique qui va ensuite convertir cette information visuelle en impulsions électriques qui vont être dispensées au niveau de l'implant sur les cellules qui vont faire le nerf optique. Voilà.
Sur la marche, Antoine, qu'est-ce qui est capable de restituer la marche ou qu'est-ce qui est souhaitable ou qui ne le serait pas ?
Pour restituer la marche, là, on pense, en termes de lectorat de SF, on a toujours, ou de visuel de SF, on pense toujours à l'exosquelette. L'exosquelette, ça commence à être au point. C'est toujours en phase de test. C'est pas quelque chose qui est encore très démocratisé, puisque c'est toujours... On n'a pas de exosquelette. Il faut penser que ça s'adapte aux fonctions du handicap et de la morphologie des gens. C'est vraiment dédié à un certain type de lésion, de handicap. Pour autant, des premiers tests ont été faits dans la région, du côté de, sur un monument très célèbre, le Mont Saint-Michel. Le premier vrai test médiatique de l'exosquelette par une société japonaise dont le nom m'échappe, ça a été de tester cet exosquelette sur tout le parcours du Mont Saint-Michel, puisque le Mont Saint-Michel, il y a beaucoup de marches. Il n'y a que ça, il n'y a que des pavés. Et ça a connu un petit succès critique. Pour autant, quand on parle de marche en tant que tel, d'un point de vue pragmatique, sans rentrer dans la science-fiction, il y a toujours le principe de machine qui nous accompagne dans la rééducation. Moi, par exemple, tout comme Clément, on en discutait, on souffre tous les deux de la même pathologie qui est neurologique. C'est-à-dire qu'on a une petite lésion dans le cervelet, la partie basse du cerveau. Et au niveau motricité, pour être un peu cru, c'est le bordel. Nos muscles ne réagissent pas correctement. On a toujours les muscles plus ou moins contractés. Et on n'a pas d'équilibre naturel. Ce qui fait que quand on est jeune, moi par exemple, j'ai appris à marcher avec ma première machine. C'était simple, c'était un déambulateur. Je n'avais pas 60 ans, mais j'avais un super déambulateur qui me servait d'appui. Pourtant, d'un point de vue médical, j'étais branché sur une machine électrique qui me stimulait. On n'est pas dans l'augmentation, on n'est pas vraiment dans la réparation, mais on est entre les deux. C'est les machines qui accompagnent sur le handicap, qu'on a tendance aussi à oublier. Je pense par exemple, on parlait du rein tout à l'heure, il y a par exemple cette machine que je trouve formidable pour des raisons personnelles qui est la dialyse. Cette machine de dialyse me permet à un membre de ma famille, a permis à une époque à un membre de ma famille de vivre. Et on se retrouve, on est déjà dans un état plus ou moins de cyborg sans le savoir. Il y a un produit qu'on appelle le Botox. Le Botox, tout le monde doit connaître peut-être dans l'assistance. Le Botox, c'était
on l'utilise en chirurgie esthétique.
Non, c'est pas vraiment sa première utilité en fait. Le Botox permet de détruire les cellules nerveuses au niveau des muscles et ça nous permet d'acquérir une meilleure motricité. Je me trompe pas, Clément?
C'est même, je crois qu'on parle de neurotoxines parfois aussi, toxines botuliques, voilà, en fait c'est censé aider à détendre les muscles en cas d'hypertonie, donc qui sont notre lot au quotidien à Antoine et à moi-même. Voilà.
De fait, on a deux choix pour les toxines botuliques. Soit on fait de la chirurgie esthétique, on prend une grosse aiguille, on prend une grosse soluté et on pique aux endroits où il faut. Soit on installe un système que les diabétiques peuvent connaître, des pompes à insuline qu'on porte sur soi, qui sont pour moi la première étape du cyborg assisté. C'est-à-dire que ça permet, on fait des réglages, on fait sa dextro, et on vérifie le dosage par rapport à cette pompe, et on n'a pas besoin de s'occuper d'autre chose. S'il y a certains diabétiques dans l'assemblée qui peuvent témoigner s'ils sont équipés, ils pourront peut-être témoigner si je ne me trompe pas. Mais c'est déjà les premières étapes qui sont déjà plus ou moins concrètes. On parlera des prothèses, tu as parlé des prothèses. Il existe déjà des choses comme ça, en fait.
Oui, tout à fait. Et même dans le domaine du diabète, ça évolue encore, ouais. En fait.
Mais je voulais juste revenir sur une chose, c'est dire aussi que le choix de se faire réparer ou non, c'est un choix purement personnel. On peut pas se baser sur, on peut pas se caler sa décision sur le segment en entier. Par exemple, moi, j'ai refusé de me faire opérer quand j'étais jeune pour des raisons totalement personnelles et de choix de statistiques, de résultats et de connaissances de ce qui peut arriver si ça rate. Mais ça reste, nos expériences restent tout à fait personnelles. Je vois sur les prothèses, par exemple, auditives, dont parle de Olivier, ce sont des choix qui nous sont totalement personnels. Après, c'est vrai que, puisqu'on parle de science-fiction, la science-fiction est un monde dans lequel on a envie de... c'est un monde où la cure est toujours omniprésente. Et qu'un monde de science-fiction, généralement, la maladie n'existe très peu. Sauf en cas de narration. Donc, voilà.
Oui, Olivier.
Justement, vous connaissez peut-être le film Star Wars, et on voit où tout le monde, tous les robots sont normés, sont tous identiques, parce qu'on essaye d'avoir des choses qui sont identiques, tout le monde pareil. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut aller vers un avenir où chaque disparité aura disparu, on n'aura plus de diversité de taille, de couleur, on sera tous normés au niveau des humains, tous les humains seront pareils. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on désire ? Faire disparaître nos différences, nos cultures aussi derrière ça ? Les différences de chacun, ce qui fait en fait la richesse et la diversité de l'humanité. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait avoir pour plus tard ?
Olivier Gechter, vous vouliez...
Oui, sans parler de SF, quand j'étais gamin, l'électricien du village a mis les doigts où il ne fallait pas, a perdu un bras, il a eu la chance de ne pas en perdre plus, et il a toujours refusé de porter la prothèse qu'on lui a fournie. Parce qu'en fait, ça faisait partie de son histoire et sa maladresse, il voulait l'avoir sur lui tout le temps. Déjà, les prothèses dans les années 70, c'était forcément pas très confortable. Mais en plus, c'était pas lui d'avoir ce truc qui correspondait pas non plus à l'image qui se faisait de sa main. Enfin, je sais pas vous, mais quand vous... moi, je me connais par mes mains. Moi, c'est mes mains. Si je perds une main, j'aurais peut-être pas envie d'en avoir une autre qui me rappellera que je suis plus complet. Donc, il préférait pas avoir deux bras, être avec un seul bras et pallier.
Au sujet justement de la perte des, notamment des membres supérieurs, il y a une capacité du cerveau qui est absolument incroyable. Vous avez peut-être entendu parler des membres fantômes et de la sensation de membres fantômes, où effectivement, dans le cas d'une amputation, la personne, le cerveau de la personne va compenser pendant un temps l'absence du membre par une sensation très nette, complètement neurologique. Que le membre manquant est toujours là. Donc c'est une véritable problématique de la conscience du corps et de la conscience de soi qui se met en place ici.
Et du coup, qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ces prothèses qu'on va pouvoir brancher sur le système nerveux qui fonctionne du coup, peut-être Claire Vardin, que vous allez pouvoir réagir là-dessus, qui fonctionne en liaison directe avec le cerveau et... ça a été notamment expérimenté sur la main et l'avant-bras, peut reconstituer les mouvements qu'on a perdus.
Alors, je pense que par rapport au choix de la prothèse, effectivement, comme vous l'avez tous souligné, c'est un choix personnel. Après, moi, je parle du côté scientifique. C'est effectivement une des premières prothèses où on va avoir une vraie ce qu'on appelle une interface cerveau-machine, où on va donc implanter des électrodes directement dans le cerveau et utiliser le code neuronal pour contrôler une prothèse. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut savoir que, quelles que soient les prothèses, d'ailleurs, c'est souvent pas automatique. Il faut apprendre à réinterpréter, à trouver comment l'utiliser avec son cerveau. Mais ce qui est clair dans les essais humains, donc on a déjà vraiment commencé dans ce cas-là, c'est une récupération d'une autonomie minimale, en fait. C'est ça le vrai plus de cette prothèse, c'est réussir à pouvoir faire des gestes dans le quotidien tout seul.
Je crois que l'autonomie, c'est effectivement le mot-clé de tout ça, c'est-à-dire retrouver une dignité de faire les choses qu'on veut faire seul et d'être, de ne pas compter tout le temps sur les autres.
Bah, en fait, c'est même pas une question de dignité, en fait. C'est juste une question d'autonomie pure. C'est-à-dire que si, par exemple, il me manque une main pour faire quelque chose et que j'ai besoin d'avoir une prothèse qui soit articulée pour pouvoir faire quelque chose qui m'est utile dans mon quotidien, oui, avec plaisir, je m'équiperai. Ou si j'ai envie de marcher ou d'avoir un exosquelette pour me déplacer de manière un peu plus correcte, oui, je le fais. Je pense pas que ça soit une question de dignité et d'image, en fait. C'est une question plus ou moins personnelle, vraiment d'autonomie, de faculté et de dosage de l'autonomie. Chaque personne décide et peut décider de son degré d'autonomie et de ce qu'il veut faire réellement, en fait. Dans la dans l'acceptation et aussi dans son ressenti par rapport à son propre handicap. Et chaque prothèse, j'en parlerai sur le GapFab par exemple tout à l'heure, chaque prothèse est destinée à accomplir quelque chose de spécifique dans le mouvement. Là, sur ce qu'on arrive avec les prothèses reliées cérébralement, c'est qu'on arrive à interpréter le message, donc on arrive à une autonomie supérieure. C'est là la petite différence entre les prothèses classiques et l'avenir des prothèses, dans le degré de faisabilité et de praticité, en fait. Je ne sais pas si...
Je dirais que dans la situation de handicap, il y a peut-être deux éléments à prendre en compte. D'une part, la façon dont la personne perçoit elle-même son propre handicap et la façon dont le handicap est perçu par les autres aussi. Vu qu'on est des êtres humains en interaction, la plupart du temps, à moins qu'un être humain reste totalement isolé pour toute sa vie, mais à ce compte-là, c'est peut-être plus critique, mais dans la majorité des cas, nous sommes des êtres d'interaction avec les autres. Et moi, j'aimerais simplement faire un petit passage par la SF, et je pense que Antoine et moi, on va être assez complémentaires vu qu'on a eu les mêmes sujets de discussion hier. Je veux pas faire croire que je me planque derrière la SF pour interpréter la réalité. C'est pas du tout ça. C'est juste que la SF, pour moi, est un monde qui peut nous aider à une compréhension, à un divertissement, à une interprétation différente du réel. Mais l'imaginaire n'est pas l'inverse du réel. Ça, j'en suis persuadé. C'est une lecture du réel particulière. Et il se trouve que ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier Fildago tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il parlait du fait que parfois on ne laissait pas forcément le choix aux gens, il y a un film, un être qui le montre, c'est Robocop par exemple. Les Utopiales ont eu d'ailleurs la bonne idée de nous repasser le film, je crois qu'il repasse d'ailleurs demain, n'hésitez pas à y aller. Si vous ne l'avez jamais vu, sachez qu'il est extrêmement violent. Je sais que la violence s'est banalisée, mais je préviens tout de même que il pique un petit peu sur certaines scènes. Donc je rappelle l'histoire en deux mots pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas. Il s'agit d'un policier qui va se faire, donc qui est à Détroit dans une réalité alternative et un futur proche d'une autre, gangréné par le crime et la violence absolue. Et en fait, ce policier va se faire froidement assassiner, quasiment chirurgicalement même par des malfrats. Et son corps et son cerveau vont être récupérés, complètement privatisés. Chose qui m'avait d'ailleurs choqué quand j'étais plus jeune, c'est qu'on va lui refuser toute humanité et on va le considérer comme un produit censé faire de lui le meilleur flic robot qui soit. Sauf que tout va pas se passer comme prévu et il va récupérer un semblant de libre arbitre quand on va le mettre dans son armure. Voilà.
Sur la question du choix, un exemple d'hier me revient et je vous conseille vivement de le lire, c'est La vitesse de l'obscurité. La vitesse de l'obscurité, c'est un livre sur l'autisme, sur un autisme plus ou moins Asperger, qui se voit proposer le choix de l'opération, enfin d'une opération, d'un traitement pour rentrer dans la norme. Je ne suis pas forcément d'accord avec la fin de ce livre, mais pour des raisons encore tout à fait personnelles. Mais sur la question du choix de la norme et de la considération du handicap en tant que récit intérieur, c'est un très bon livre de SF que je recommande à tous les lecteurs qui se posent la question justement du choix et de la perception même du handicap d'un point de vue intérieur.
Je vais proposer à mon fils, qui étant lui-même autiste, se pose ce genre de questions en ce moment. Et je peux vous dire qu'actuellement, là, tout de suite, si on lui disait il y a un traitement, demain, tu n'es plus autiste, il signe tout de suite.
Oui, mais voilà,
c'est... Donc c'est vraiment également au cas par cas, parce que j'en connais d'autres qui ne voient absolument pas où est le problème d'être comme ils sont et qui ne changeraient pas. Donc là, on est toujours sur le cas de la machine. Enfin, et on va parler d'un autre type de machine. J'ai un pétrin à la maison, j'aime bien pétrir à la main aussi, on va pas me forcer d'utiliser le pétrin à la machine. Hein, voilà. Bon, la prothèse, le traitement, etc., c'est une machine au service de l'homme. Si on n'a pas envie de l'utiliser, on ne l'utilise pas.
Olivier Fidalgo.
Oui, c'est vrai que on n'a pas d'obligation à se faire poser des prothèses. Et pour les enfants, les prothèses auditives ou les greffes de main, je ne sais pas, à l'avenir, si on pouvait mettre des greffes dans la main pour que les personnes signent et que ça soit connecté au cerveau, on sait pas. Il pourrait y avoir des virus dans ces prothèses, des choses qui ne fonctionnent pas. À l'avenir, voilà, y a beaucoup de choses qui sont... Il y a des choses qui se sont passées et à l'avenir, il pourrait encore avoir des problèmes. Mais il pourrait y avoir une meilleure solution. Alors, il y a un endroit qui est situé près d'ici. En fait, c'est quand les personnes ne peuvent pas entrer dans un bâtiment. Par exemple, quelque chose qui est de domaine du patrimoine, qu'on ne peut pas changer pour mettre un ascenseur, par exemple. Les personnes en fauteuil qui arrivent en bas, en fait, elles peuvent se positionner devant un écran et le robot, lui, il est à l'étage. Et c'est lui qui se déplace dans les couloirs avec quelqu'un qui explique ce qui est là exposé. Il y a une caméra pour que ça soit transmis sur l'écran. Et en fait, l'humain est en bas. Finalement, il regarde ce qui est transmis par le robot qui, lui, est en haut à la place de la personne qui ne peut pas y aller physiquement. Donc voilà, il y a des solutions qui sont déjà en place. Et ça ne touche pas le corps, ça ne transforme rien. Mais il y a déjà des machines qui sont là pour le confort des utilisateurs. Alors pourquoi pas utiliser celle-là ?
Ça, c'est un robot avatar, finalement, qui fait la visite à sa place, au rythme qui est voulu par la personne, etc. Alors,
c'est vraiment génial.
On parlait aussi du regard de l'autre et de la communication avec l'autre. Lorsqu'on a des handicaps, cette fois... vraiment très lourd. Je pense au Locking syndrome, Claire Varda, qu'on en parlait tout à l'heure dans la rencontre. Le seul rapport de cette personne enfermée dans un corps qui ne peut plus bouger, c'est l'œil, finalement. Et là, du coup, la machine qui est là pour suivre le regard ou suivre les battements de paupières, ça devient absolument indispensable.
Oui, alors c'est vrai qu'on a discuté tout à l'heure du suivi du regard. Pour être plus précis sur le Locking syndrome, en fait, il y a aussi du développement d'interface cerveau-machine, mais pas moteur finalement. C'est plutôt essayer d'interpréter, par exemple, un état attentionnel pour aller faire des choix sur un écran d'ordinateur ou des choses comme ça. Mais donc, revenons sur le suivi du regard. Effectivement, ça, c'est maintenant une technologie qui se répand de plus en plus, notamment, par exemple, dans l'autisme. C'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Le principe, c'est... la machine sert à quoi ? Elle sert à suivre la position des yeux et à reconstituer, du coup, le point sur lequel se fixe le regard. Et donc, ça nous permet de suivre en temps réel l'exploration oculaire des sujets, mais par exemple aussi d'autres informations telles que la taille de sa pupille ou des choses comme ça qui peuvent donner des paramètres sensoriels intéressants. Alors, comme interface, effectivement, on peut l'utiliser, que ce soit dans le Locked-in syndrome ou par exemple comme c'est fait dans certains services de réanimation maintenant où les sujets sont intubés, ne peuvent pas parler, ont juste le regard pour communiquer et cette interface va permettre par exemple d'aller sélectionner des options, des choix à tout fait sur leurs ressentis, leurs besoins, des choses comme ça au quotidien. Et donc c'est une vraie révolution au niveau de la communication.
Alors, je voudrais aussi parler et faire un lien avec la science-fiction de l'encombrement des machines. Et je regarde Olivier Gechter parce que dans son Baron Noir, on a une espèce de super-héros qui utilise un exosquelette et qui lui décuple sa force. Mais alors, il y a beaucoup de descriptions sur le bruit que ça fait, sur l'encombrement que ça peut avoir, sur l'énergie qui risque d'arriver... De s'épuiser et du coup le poids qui tombe dans cet exosquelette, c'est un problème la machine finalement.
Et encore j'ai triché hein, parce que forcément pour réussir à rendre ça réaliste au 19e siècle, si on triche pas ça marche pas bien. En fait j'ai commencé ma carrière d'ingénieur à faire des équilibreurs de charge qui permettent à des gens, par exemple, installer des sièges d'une voiture en 2-3 gestes, etc. Et une de mes réalisations, c'était la machine qui permet de mettre un toit en verre sur une Peugeot. Et à la main, il faut 4 personnes, c'est pas précis, etc. Et là, avec une seule personne, une seule personne en faisant les mouvements venait mettre le toit. Bon, c'est énorme cette machine-là. J'ai passé 2 semaines à la monter, quoi. Évidemment, les équilibreurs de charge, en les miniaturisant, on finissait par avoir un composant gros comme ça qui permettait de contrôler des vérins. C'est là que je me suis dit, alors je ne sais plus qui fabriquait ça, mais c'était assez génial. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, on arriverait presque à faire un bout d'exosquelette. Bon, là-dessus, j'ai lu Les Watchmen où le hibou invente un exosquelette et se casse les deux jambes au premier mouvement. Je me suis dit, je ne vais pas essayer moi-même. Mais il y a pas mal de problématiques mécaniques très compliquées au niveau des pantographes qu'il faudrait, etc. C'est pour ça qu'on n'y arrive que maintenant, finalement. C'est des composants qui ne sont pas si encombrants que ça. Et j'ai pu voir d'ailleurs une start-up française où l'appareil est tellement peu encombrant qu'on arrive à courir avec, ça s'arrête à la ceinture. C'est vraiment impressionnant. Là, on est vraiment entré dans la phase science-fiction. J'invente plus rien. Hein. C'est assez impressionnant. Alors, par contre, pour la partie 19e siècle, évidemment, j'ai triché comme un malade. Hein. Essayez pas d'en fabriquer un dans votre garage, ça ne marchera pas.
J'ai un autre exemple qui plus récent que le 19e ou le 19e inventé, c'est comme on veut, qui d'un homme qui devrait être aidé par la machine et qui se plante en permanence, c'est l'inspecteur Gadget. C'est l'inspecteur Gadget, donc ça date des, bon, encore une fois pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça date des années 80, donc ça a pas loin d'avoir 40 ans, mine de rien. Je sais, ça fait mal, mais le fait est que c'est un personnage qui a eu un accident, qui est en partie français d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est un personnage qui a eu un accident dont on ne sait pas trop la nature en réalité dans le dessin animé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des gadgets de partout, dans tout le corps. Il est policier et il va se frotter à une organisation mondiale qui est le mal absolu, donc qui est MAD. Voilà. Et le Dr Gang, qui est un méchant très classique de tout l'imaginaire du méchant, qu'on voit que la main qui caresse le chat. Et du coup, ce qui est génial dans cette série, c'est que l'inspecteur Gadget est peut-être l'inspecteur le plus paumé de toute l'histoire de la police. Et c'est surtout qu'il est en permanence gêné par ses propres gadgets. On a l'impression qu'il passe le contrôle technique à tous les épisodes. Et à tous les épisodes, ses gadgets font n'importe quoi. Alors parfois, ça lui sauve la vie. Parce que par un concours de circonstances absolument incroyable, ça va lui sauver la vie parce que les skis vont se déclencher à la base du manteau et du coup ça va l'éloigner du revolver qui menaçait de le tuer. Et surtout, il est en permanence assisté par sa nièce Sophie et son chien Fino. Donc il est quand même sauvé par son chien en permanence. Qui vont à toutes les missions vérifier que l'oncle ou le maître ne se fasse pas tuer. Mais voilà, typiquement, on a sans doute une belle parodie ou pseudo-parodie de tout ce qui va être l'homme qui valait 3 milliards, avec un arsenal de gadgets qui va se trouver complètement défectueux et qui, passant pour miniature, va pourtant être plus encombrant que tout ce qui soit.
Ouais, en fait, on aurait mieux fait de lui remplacer le cerveau plutôt que le corps, hein, finalement.
C'est un peu ça. Mais je crois que dans un épisode, il devient accidentellement très intelligent. Et du coup, là, il va commencer à être un vrai problème pour les adversaires. Mais ce n'est que temporaire, malheureusement.
Vous avez d'autres exemples d'héros ou de super-héros? Bon, il y a Batman qui utilise énormément de technologie. Il est parfois encombré aussi, Batman, par sa technologie?
Alors là, on va commencer à rentrer dans le très précis, mais c'est parce que bon, j'ai triché, je me suis refait la série il y a une semaine. La série Batman TAS, donc la série animée, The Animated Series de 92, il y a un épisode, donc à mon sens peut-être bien la meilleure série Batman, hein, qui apportait beaucoup de choses et qui avait d'immenses qualités. Et donc on a ce personnage environné de technologie comme d'habitude dans sa Batcave, dans son manoir, avec sa Batmobile évidemment. Et il y a un épisode très précis où l'un de ses adversaires, le Pingouin, va se débrouiller pour trouver où la Batmobile est réparée à chaque mission de Batman. En fait, il a un réparateur attitré dans le plus grand secret à qui il fournit les pièces et à qui il demande des améliorations. Et en fait, la Batmobile va se retrouver complètement pliée. Elle va avoir besoin d'être réparée. Le Pingouin va trouver l'endroit et va menacer l'ingénieur. pour qu'il pirate la voiture et lui donne le contrôle complet. Et là, Batman va se retrouver, Batman et Robin d'ailleurs, il va être assisté de Robin dans cette mission-là, ils vont se retrouver bloqués menacé par la Batmobile qui est l'arsenal de Batman sur la route, et d'autres méchants tels que le Joker vont s'amuser, notamment dans certains comics, à parodier l'arsenal de Batman et à retourner l'arsenal de Batman contre lui. Donc oui, il y a des... En fait, la technologie de Batman est tellement précise, tellement chère à produire, tellement incroyable, qu'il y a des moments, même lui va se trouver dépassé ou va se trouver face à un adversaire plus temporairement plus dangereux qu'il ne peut l'être, enfin, ou plus efficace qu'il ne peut l'être avec ses propres gadgets. Donc oui, ça peut arriver, que ce soit dans les comics ou l'animation ou les films, qu'il se trouve temporairement bloqué par sa propre technologie.
Antoine,
dans le même registre, mais pas chez DC, mais on va passer du côté de chez Marvel, qui regorge de personnages handicapés en tout genre. On en avait parlé hier en table ronde. Il y a le cas d'Iron Man, dont on a très peu parlé. Iron Man, on ne voit pas trop de rapport avec la prothèse, mais en même temps, Iron Man possède un cœur artificiel qui lui permet de vivre. Autour de ça, il se construit une armure qui devient un peu sa seconde maison, surtout dans les films qu'on lui a fait, qui sont pour moi un peu un désastre sur certains aspects, mais c'est ce qui montrera au public, c'est que la machine défaillit tout le temps. C'est qu'il a toujours, narrativement, mais au-delà de ça, un pépin technique avec son armure, qui est un peu sa condition de vivre. Et il se passe que, bah oui, la machine bug tout le temps, beaucoup plus que chez Batman d'ailleurs. Et c'est devenu un peu un gimmick sur des revues papier où vous voyez Ultron, le dernier film d'Ultron, en fait, Ultron dans les comics papier, Ultron pirate un nombre incalculable de fois l'armure d'Iron Man, ce qui devient un peu un running gag permanent quand... On dit Iron Man s'est fait pirater et ça menace la Terre entière. Il ne contrôle plus du tout son armure, qui est un peu l'extension de lui-même, qui est sa prothèse sur laquelle il vit. Et je pense que c'est un des exemples les plus intéressants de machines qui déconnent au quotidien.
Il y a un exemple toujours dans les Marvel, là, c'est par contre dans la division Alpha. Il y a un personnage qui a perdu ses deux jambes et qui compense en se fabriquant. Au départ, c'est une espèce de grosse armure. Et d'ailleurs, c'est à mon avis une des plus réalistes. Parce que, franchement, une armure qui silhouette bien le corps et montre bien les pectoraux à faire, c'est pas trop possible. Par contre, là, c'est un énorme bestiau où il se insère entièrement dedans dans une petite cellule. Et si on lui arrache la tête, elle est dessous, ça pose pas de problème. Alors j'ai oublié le nom du personnage. Et après, il arrive encore plus loin, il arrive à s'intégrer entièrement dans la machine. Et c'est là que s'il a une panne, elle se répercute sur son corps à l'intérieur et il peut plus sortir. Et là, il y avait une problématique assez intéressante qui, quand ils ont changé de scénariste, est partie un petit peu en cacahuète, dommage. Mais on avait vraiment un aspect où, à vouloir trop compenser son handicap, il était devenu prisonnier de sa prothèse géante. Qui posait quand même des petits problèmes quand il fallait monter dans une voiture qui était plus grosse que la voiture.
Là on retrouve totalement le problème du rapport, enfin le problème, la question plutôt du rapport au corps qu'on abordait précédemment dans la discussion. Et ça se retrouve notamment chez Iron Man, puisque Iron Man à la base c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver donc au tout début dans les années 60, c'est durant la guerre du Vietnam, il va se retrouver blessé par un éclat d'obus, et il va devoir absolument réparer son cœur et travailler très vite. Et donc il va se créer cette armure qui, à la base, tient de la prothèse, on va dire presque de la prothèse cardiaque ultra améliorée. Et c'est après qu'il va découvrir que finalement avoir des rétropropulseurs et des missiles de partout, ça peut être très pratique pour répandre la paix et la justice un peu partout. Enfin, il est très paradoxal là-dessus, Iron Man, quand même. Mais du coup, on a un être de chair et d'eau qui va être frappé par une faiblesse cardiaque et qui va prendre le surnom de l'invincible Iron Man, puisque son armure est normalement à l'épreuve d'à peu près tout ce qui existe. Et du coup, voilà, on a vraiment un rapport au corps. Là, c'est plus que de la compensation, c'est vraiment le refus de la vulnérabilité au complet.
On a d'autres exemples dans la science-fiction de machines qui réparent mais qui deviennent parfaites, c'est-à-dire qui arrivent à faire extraire l'homme de sa condition humaine, de sa vulnérabilité. La vulnérabilité, on voit bien que ça existe aussi pour les machines. On a ça dans la science-fiction, cette espèce de fantasme d'invincibilité ou d'éternité aussi.
Oui et non, c'est-à-dire que réparer le corps humain vient toujours sur un archétype de si tu as une faiblesse, on la répare pour te rendre meilleur, mais c'est une question de vraiment compensation, comme on en parlait, qui vient avec des défauts qui servent principalement l'arc narratif qu'on est en train de construire. C'est-à-dire que, par exemple, la maladie, si elle existe, ce que je disais au tout départ dans la science-fiction, la maladie, la difformité, si elle existe, c'est qu'elle doit servir un propos. Si on s'équipe, par exemple, si notre héros doit passer par une phase de réparation, ce sera forcément une phase de réparation pour le rendre normal, mais supérieur. Il y a je ne sais plus quel chercheur britannique ou anglo-saxon appelait ça le concept de super freak, super creep, c'est-à-dire rendre handicapé encore meilleur pour devenir un surhomme. Il y a vraiment toute une progression. Après, dans le principe des prothèses, des exosquelettes, il y a aussi le principe de dépassement de l'humain total. C'est-à-dire que si on croise un cyborg, on ne se demande pas ce qui lui est arrivé. On va le considérer comme un être unique, voire même normé par rapport au cyborg. Et il va servir un propos. Ses prothèses seront plus fortes que la force humaine. Ses yeux verront plus loin. Ses sens seront décuplés et il n'y a jamais le côté de l'encombrement, par exemple. On ne se pose jamais la question de l'encombrement et des ressources.
J'ai une exception. Ouais, je donnerai une exception tout à l'heure.
Sauf pour majoritairement servir le propos narratif. Si, par exemple, on prend un problème de batterie, il y aura un problème de batterie pour que dans le chapitre suivant, il y ait quelque chose. Pour autant, il existe des contre-exemples. J'en ai cité un qui me tient à cœur chez Enline, Waldo, par exemple. Waldo, qui est un ingénieur qui est équipé de prothèses et qui se sert de ses prothèses dans l'apesanteur pour faire diverses choses et qui s'affranchit totalement de sa condition de manchot. D'ailleurs, je recite toujours cet exemple, que certains scientifiques américains ont donné le nom des bras articulés mécaniques de contact des substances dangereuses, Waldo. Ça vient de là, enfin. Merci, monsieur Engain. Mais il y a très peu de... narrativement, il y a très peu de handicaps ou de compensations qui ne vont pas sur un prix ou sur quelque chose d'autre. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'exemples, quelques exemples qui me viennent.
Oui, Andreas Schirschbach avait écrit un roman dont, évidemment, j'ai oublié le titre, au secours. Quelqu'un ? Non ? Bon, bref. Où un groupe de soldats est transformé en cyborg généralement après un grave accident. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'exemples où on force le vrai accident pour fabriquer le cyborg. Généralement, on part toujours d'un départ.
Il y a deux, trois trucs où ça arrive, oui. Mais c'est parce que c'est un méchant qui calcule tout de A à Z.
Et alors là, par contre, le cyborg en question, après 10 ans de bons et loyaux services, se rend compte que sa pile nucléaire, elle commence à lui peser sur l'estomac et elle tire trop sur les organes et qu'il faudrait la remonter, qu'il y a des problèmes articulaires qui se créent parce que les bras ne sont pas super bien fixés, que son œil est trop lourd et que du coup, il descend petit à petit et il commence à déformer le squelette, donc il commence à se transformer en monstre parce que tout est trop lourd. La pile a tendance à surchauffer, il n'a plus de tuyauterie digestive propre, il doit avoir 10 cm d'intestin, donc il est obligé de boire des liquides absolument nauséabonds, mais on lui a enlevé les papilles gustatives, donc à la limite, c'est pas très grave, mais on peut l'affamer comme on veut avec ça, il est obligé d'être sage, sinon il n'a pas sa pâtée. Donc vraiment, là, il avait vraiment travaillé le concept de l'homme réparé, attention, parce que ça a l'air bien, mais au bout de 10 ans, peut-être qu'il y a usure. Ça, j'avais beaucoup aimé cet aspect-là du roman, d'ailleurs. Si quelqu'un se rappelle du titre dans le public.
Le dernier de son espèce.
Merci, Dimitri.
Et il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est au niveau des prothèses oculaires. Je crois que c'est, si mon souvenir est bon, c'est Wixon qui, c'est Gange Mémoire, je crois, a un soldat qui est équipé d'une prothèse sur laquelle qui enregistre tout, si je me souviens bien. Je vois Gilles Gougag là-bas au fond qui opine du chef. Mais il se pose beaucoup de questions sur l'utilité de cette prothèse qui lui est quand même utile. Il y a tout un concept qu'il est utilisé, il le sait, mais cette prothèse le questionne sur sa condition en tant que telle. Le deuxième exemple, c'est dans une série totalement qui n'a connu aucun succès, qui doit être Almost Human ou quelque chose comme ça, où il y avait un duo de flics et d'androïdes. Et ce fameux flic, il a une jambe en moins. Il a vraiment une jambe en moins. Et le problème sur deux ou trois épisodes, c'est que cette jambe grince. Cette jambe grince, ça l'énerve. Et son collègue lui fait « Tu devrais utiliser de l'huile d'olive ». Il y a toute une scène où on le voit entretenir sa prothèse. Mais l'entretien et le quotidien en tant que tel des cyborgs, si on a Ghost in the Shell, on a quelques phases vraiment où on parle d'entretien et de réparation, mais c'est pas le quotidien en fait. Et ça fait partie aussi du sense of wonder. Si on raconte que le quotidien d'un super-héros qui est à Paris, on perd toute qualité d'émerveillement. Enfin, ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse. Ça rend le personnage plus humain. Mais pour autant, ce n'est pas le propos non plus du narrativement, en fait.
Oui, c'est sûr, si on veut en faire des super-héros, ils doivent être parfaits. Olivier Finalgo, vous vouliez...
Oui, je voulais faire suite. Je vais faire suite à ce qui vient d'être dit par rapport aux nouvelles technologies qui avancent de plus en plus, au niveau scientifique, au niveau science-fiction. Par exemple, tout ce qui peut être perçu par les yeux, visuellement, par les sourds. Ça peut être enregistré, la langue des signes peut être enregistrée comme ça. On peut mettre de la traduction liée aux paroles d'une personne qui serait dans les lunettes, oui, ou mettre un interprète qui serait là dans la vision du sourd sur ses lunettes. Ça serait quelque chose de plus confortable, effectivement. On peut imaginer beaucoup de choses au niveau de la technologie pour le confort de vie. Il y a en expérimentation les Google Glass. C'est déjà quelque chose qui est avancé. Bon, bien sûr, c'est assez cher, mais à l'avenir, c'est ça l'avenir. Pour Robocop, par exemple, vous voyez, il avait tout ça qui apparaissait devant lui. Il avait ces lunettes-là. C'est vraiment intéressant. Et pour moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose de confortable dont on aurait besoin. Il y a déjà eu des tests. Moi j'ai déjà essayé et c'est assez intéressant. Enfin, les technologies doivent avancer pour pouvoir s'en servir.
Antoine.
Sur le futur et sur le concept des technologies, il y a aussi un facteur. Je vais parler de machines. Quand on parle de machines et de prothèses, moi, quand on a commencé à échanger, Bénédicte et moi, j'ai soumis une machine qui est pour moi très importante dans l'avenir des prothèses et des appareillages, c'est l'imprimante 3D. Parce que l'imprimante 3D, je mets un peu en objectivation ma position d'Européen et d'Occidental. Il y a les prothèses, ça coûte cher. Les prothèses, c'est un prix. La moindre prothèse de course, je me suis renseigné, j'avais oublié le prix, c'est 10 000 euros la paire pour 6 mois d'usage. Enfin, pour des usages vraiment précis, ponctuels, c'est solide, mais très peu solide. Et les prothèses qu'on utilise en Europe coûtent cher. On a la chance d'avoir, je vais faire un peu mon radical de gauche, un système de santé qui nous permet d'être équipés, mais le handicap a un coût. L'imprimante 3D a permis une démocratisation très bête et très méchante de, grosso modo, plans de prothèses de main, de prothèses de bras. Ça commence à se démocratiser. Je vois qu'il y a plein de GapFab qui travaillent en Creative Commons sur des plans. Bien sûr, c'est encadré, c'est utilisé. Mais il y a aussi une partie de coût. Et à l'avenir, ce sont quand même des matériaux qui coûtent cher. Et la majorité des amputés, on a toujours cette affiche de handicap international qui traîne en tête. On a toujours ces réfugiés de guerre ou ces habitants de zones de conflit avec une jambe en moins, une main en moins. Bah, faut se dire qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de sous et qu'ils aiment bien justement d'un côté pratique et d'autonomie d'avoir ça. Et donc du coup, par exemple, il y a Joie-sur-Aisne, je ne sais pas si vous suivez les concours Google. Google avait lancé un concours sur les projets innovants et l'accessibilité. Plus ou moins l'accessibilité. Et il y avait le Garanti Lab, qui était un projet qui fait le tour du monde des TEDx et tout, qui est de créer justement un plan, pas global, mais qui peut être adapté à tous, d'une main à fabriquer à bas coût. Il ne faut pas oublier que le bas coût, c'est un peu l'avenir aussi, et c'est une des choses sur lesquelles il faut arriver quand on parle de prothèses et d'autonomie. C'est-à-dire que le coût du handicap doit être compensé, et non pas une valeur ajoutée. Je sais pas ce que. Donc voilà. Et c'était juste pour vous faire rire. J'aurais voulu vous montrer cette photo, mais par un concours de circonstances, j'y ai pas pensé. C'est Clément qui me l'a ramené. Je possède une photo du vrai inspecteur Gadget. C'est-à-dire que dans le cadre de fabrication de prothèses, ce qui est bien avec les GapFab, mais un peu ce côté rétro, enfin, handicap. Pris à contresens des circuits classiques, c'est qu'on peut faire n'importe quoi avec une prothèse. Et à Berlin, sur un GapFab, il y a quelqu'un qui s'est inventé la prothèse d'inspecteur Gadget. C'est-à-dire que c'est une prothèse de main avec une hélice qui est actionnable par une pile qui se cache sous le manteau. Et j'ai des photos de inspecteur Gadget sur scène. Quoi. Enfin, voilà.
Bien, on va... Vous avez sûrement des choses à demander ou des commentaires à faire. On va faire circuler un micro.
Bonjour. Je travaille en fait dans le milieu scolaire. Je suis à ESH auprès d'élèves et d'étudiants qui sont en situation de handicap. Et le problème que je vois souvent, qui se pose peut-être plus d'ailleurs pour ces publics-là, qui sont encore plus jeunes et qui ont peut-être un peu moins vécu leur handicap, c'est le rapport entre eux et les autres camarades de leur classe qui est lié à leur handicap. Et j'aimerais savoir si, au terme technologique, on peut imaginer quelque chose ou il y a peut-être quelque chose qui existe déjà pour améliorer ce rapport. Voilà.
Je dirais qu'effectivement, il peut y avoir j'ose pas dire un problème, mais il peut y avoir des cas où le regard des autres élèves. Après, ça dépend, je pense, de l'âge qu'ont les élèves. S'il y a un âge où, quand ils sont, par exemple, plus jeunes, plus petits, ils vont être dans la curiosité et ils vont avoir besoin de comprendre. Pourquoi on marche pas comme ils ont l'habitude de voir, ou pourquoi tel handicap. Je pense qu'il y a dans ces cas-là une pédagogie à observer. Et enfin, moi je me rappelle d'avoir vécu une époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans de plus que de mon âge quand je dis ça, mais c'est un fait. J'ai vécu une époque, donc on parle de la mi-90 à peu près, où j'ai été encadré par une équipe médicale qui a dû intervenir auprès du corps enseignant, non pas parce qu'il y avait eu un problème, mais parce que le corps enseignant n'était pas habitué à, entre guillemets, gérer des personnes telles que moi, c'est-à-dire en situation de handicap. Et du coup, à l'époque, ça faisait un peu peur. Disons que ça fait toujours peur, mais disons que ça posait des questions à laquelle l'équipe enseignante n'est pas préparée. On m'a fait passer des tests de QI parce qu'on les a plus ou moins exigés, parce qu'il fallait bien vérifier que je sois pas, entre guillemets, pas débile. Hein. Le fait est qu'on m'a foutu la paix. Hein. Je n'ai pas les résultats en mémoire, je m'en fous, mais tout ce que je sais, c'est qu'on m'a foutu une paix royale après. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un besoin de pédagogie. Alors, peut-être est-il moins présent aujourd'hui, j'en sais rien, Antoine, tu peux peut-être réagir, mais en tous les cas, à une époque, je pense qu'il y avait un gros besoin de pédagogie pour expliquer aux élèves, aux enseignants, à tous, la scolarité en situation de handicap, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça doit... Voilà.
J'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il la faut encore. Hein. Handicapé mental a d'énormes problèmes d'intégration, mais pas avec les enfants qui sont extrêmement ouverts avec lui, avec tous les adultes. Oui. Et là, c'est vraiment lourd.
Il y a toujours ce problème. Bon, on va dire quelque chose, la loi sur le handicap de 2005, elle est là pour ça. Enfin, c'est une loi qui est là pour encadrer les choses. Pour autant, c'est qu'un modèle, c'est qu'un moule, c'est, il y a plein de choses qui doivent s'adapter au cas par cas. Mais, ouais, c'est une question de pédagogie, c'est une question d'environnement. On peut tomber sur sur un corps enseignant qui s'en fout totalement et qui, par exemple, va refuser à un enfant diabétique de faire une dextro au midi pour aller manger. C'est parce que c'est une procédure médicale et qu'il faut un infirmier qui vienne pour manger. Ça, c'est un cas qui m'a scotché. Ou on va refuser à un enfant autiste, on va lui diminuer son temps de présence dans un collège. Où on va galérer pour trouver un AVS pour scolariser un polyhandicap ou un handicap très lourd qui demande un accompagnement. Mais après, je reste quand même assez idéaliste. Même si je peux avoir une vision assez dystopique du handicap, je reste, et de la connerie humaine surtout. C'est, comme disait Clément, c'est surtout la connerie humaine qu'il faudrait soigner.
Oui.
Olivier Fidalgo.
Justement, sur des situations, par exemple, sur la Cité des Sciences où je travaille à Paris, souvent on organise, là sur, par rapport à la loi de 2005, on voit que la loi reste très obscure. Il n'y a pas vraiment de référentiel clair. Il y a encore plein de problèmes par rapport aux programmes, par rapport aux choses concrètes qui doivent se mettre en place, où on ne sait pas ce qu'il doit en être. Et il faut absolument mettre une clause sur la sensibilisation, sensibiliser les équipes, vraiment même faire des piqûres de rappel une fois par an pour que les personnes aillent, par exemple, se former régulièrement en langue des signes ou simplement savoir comment est-ce qu'on peut communiquer avec un sourd ou un aveugle, ce qu'on ressent en tant que sourd ou aveugle. Donc voilà, vraiment être sur le respect du public, de tous les publics. Et ça, c'est à l'école, il faut le faire maintenant, il faut que ça soit dans les programmes, il faut que l'éducation civique passe par ça, par cet apprentissage-là. Sur les fauteuils roulants, sur les personnes aveugles, sur les personnes, sur les handicaps, on n'a rien dans la loi qui est marqué à ce niveau-là et c'est vraiment dommageable. Il faut faire de la sensibilisation, il faut aller dans ce sens-là.
Une autre question, la dernière.
Bonjour. Bonjour. Moi, je me posais une question un peu idiote, c'est sur le statut. Parce que, par exemple, si on aide quelqu'un à marcher avec un exosquelette, est-ce qu'on devrait lui laisser les places handicapées ?
Moi, je vais te répondre clairement. Par exemple, je suis en fauteuil. Le fauteuil, c'est quand même un équipement lourd qu'il faut s'équiper et s'installer. Et puis, on a parlé de la faisabilité et de la défaillance du fauteuil. Enfin, pas du fauteuil, de l'exosquelette. Imagine, ton exosquelette, il défaille. Du coup, il faut quand même se le transporter. Donc, sur le principe de la question très bête, je te répondrais oui, il faut garder les places handicapées. Après, si tu veux, en plus en termes crétins, oui, ça permettrait de le fait d'avoir des exosquelettes, de l'augmentation, peut-être un changement de regard, mais on déplacerait juste le débat sur autre chose. Le regard serait encore différent sur les cyborgs. Mais on est tous uniques et on subit tous des regards sur ce qu'on est réellement. C'est, le cyborg n'est juste qu'une métaphore de l'humanité et de l'autre, en fait, comme l'alien, comme pas mal de choses.
Après, je pense qu'il y a prothèse, augmentation. Par exemple, je me déplace avec une canne de marche. C'est une augmentation, d'une certaine façon. C'est un prolongement de mon bras. Qui aide à me maintenir à peu près droit et à pas m'en mettre une dès que je fais deux pas. Bon, parfois ça marche pas forcément, hein, mais les camarades peuvent en témoigner. Mais effectivement, après, est-ce qu'on pourrait dire que puisque j'ai récupéré une partie d'équilibre, on devrait me laisser les places? Ça, je pense que c'est pareil. C'est quelque chose qui doit, même si les exosquelettes se démocratisent complètement, ce qui pourrait être une ma foi, pourquoi pas. Ça pourrait aider des gens, ça pourrait effectivement changer le regard, ça pourrait. Donc admettons effectivement, on parlait du prix, donc admettons qu'on arrive à un consensus pour un prix, pour des aides, bref, admettons. Je pense qu'effectivement, il y aurait un changement de regard, un changement peut-être des lois, une nouvelle considération du handicap par les handicapés eux-mêmes aussi. Ça pose un tas de questions éthiques, sociales, légales, auxquelles on n'a pas encore répondu, mais à mon avis, c'est un débat très intéressant.
Bien, on va s'arrêter là. C'est sûr que c'est un sujet tellement riche qu'on aurait... Je vois que ça proteste, mais on a vraiment dépassé l'heure. Désolée, mais vous pouvez encore discuter avec, avec ces messieurs, dames, et surtout retrouver, je crois qu'il y a encore une séance de dédicace. Voilà, vous pouvez aussi les retrouver à la librairie pour une séance de dédicace. Merci bien, à bientôt.